Bonjour et bienvenue à l'art d'être humain, votre complice pour comprendre et embrasser la complexité, la beauté et les défis d'être humain. De la salle de réunion au salon familial, dans votre relation avec vous-même et avec les autres. Car vous le savez, l'expérience humaine est remplie de défis et à la fois immensément belle. Être humain, c'est être capable de tenir ces deux vérités à la fois. C'est embrasser cette complexité et c'est tout un art. Je suis Pascale Dufresne et à chaque épisode où se mélangent la science et l'art du développement humain, j'explore avec vous une question sous des angles nouveaux et révélateurs, car je marche cette route d'exploratrice avec vous à partir de ma propre expérience. Bonjour tout le monde et bienvenue à la saison 2 de l'art d'être humain. Cette saison-ci, on va explorer diverses tensions que l'on a à naviguer dans nos réalités d'humains et d'humaines. C'est quoi une tension? Bien, les tensions, ça évoque l'énergie créée par la coexistence de deux forces apparemment opposées. C'est quand on se sent pris en contradiction entre deux choses qui nous semblent opposées, mais qui peuvent toutes les deux être vraies en même temps. Ce qu'il faudra démontrer dans cette saison. Quand on a l'impression que l'on doit choisir, par exemple, entre soi ou l'autre, la sécurité ou le sens, notre performance ou notre humanité, nos exigences personnelles ou nos exigences professionnelles, notre authenticité ou notre professionnalisme, notre force ou notre vulnérabilité. Lorsqu'on passe de un ou l'autre à un et l'autre, ça permet de vivre avec plus de sérénité. J'appelle cela la sagesse du « et ». Comme l'a dit Carl Gustav Jung, seul le paradoxe permet de saisir quelque chose qui s'approche de la plénitude de la vie. Alors, c'est mon invitation pour les prochains épisodes où nous allons explorer la sagesse, l'art du « et ». Ça s'appuie sur un constat simple et profond. La vie réelle, elle n'est pas linéaire. Elle est faite de tensions, de tiraillements, de polarités, de paradoxes. Plutôt que de choisir un « camp », on peut choisir l'intégration. Plutôt que d'étouffer nos contradictions, on peut apprendre à les réconcilier et, pourquoi pas même, en tirer parti. Parce qu'une tension, on va l'apprendre ensemble, ce n'est pas un problème à régler, ça peut être créateur de possibles. Et c'est une source puissante de lucidité, de conscience élargie et de création. Ton téléphone vibre. Ce n'est pas un de ces messages attendus, porteur d'élan et d'espoir, c'est l'autre sorte, celui qui chavire une vie de bord en bord. Un diagnostic, une entrée à l'hôpital d'urgence, une rupture, un accident, un décès. Un de ces appels qui dessine un avant et un après. Et parfois, les appels s'enchaînent, les épreuves s'empilent, comme si la vie avait décidé de tout t'envoyer en même temps. Et d'un coup, tu réalises que tu n'es pas le lecteur d'une saga dramatique, tu es le protagoniste de ce roman. Alors, tu oses te confier un peu. Certains te disent, il faut que tu en parles. Il y a plein de gens qui vivent ça, ça va toucher les gens. C'est vrai. D'autres, les yeux grands ouverts, ouf, mais c'est beaucoup. Silence. C'est vrai aussi. Une leader exécutive que j'accompagne me confiait récemment, « Pascal, jusqu'où je peux aller dans ma vulnérabilité avec mon équipe? » On me dit d'être une leader vulnérable, mais est-ce qu'à un moment, c'est trop? Alors, l'ouverture en vulnérabilité peut inspirer ces gens, les légitimer à faire de même. C'est vrai. Mais ses peurs étaient claires. Elle aurait pu enlever de la sécurité psychologique au lieu d'en créer, perdre sa crédibilité. Et sa question touche juste. C'est vrai aussi. Une autre leader me dit qu'il est plutôt timide et introverti. Et quand il se trouve avec des gens plus extravertis et ouverts sur leur monde intérieur, soit au travail ou dans un des parcours de développement que je facilite, il sent obligé de partager aussi ses expériences intimes. Il sent qu'il n'a pas le choix. C'est comme une obligation pour faire partie du groupe, pour « fitter », entre guillemets. Alors, appartenir, c'est un besoin fondamental humain. S'inclure dans le groupe, se dévoiler, peut lui permettre de se sentir plus en lien et favoriser son développement. C'est vrai. Mais toute personne dans son pouvoir personnel devrait pouvoir choisir consciemment à qui et comment il et elle veut ouvrir. C'est vrai aussi. Suite à la publication de mon dernier texte, Prendre soin de ceux qui prennent soin, ma boîte courriel s'est remplie de ce genre de confidences et de questions. Pour certains d'entre vous, c'était des moments de votre vie où tout a chaviré, où vos épreuves se sont multipliées, des deuils de toutes sortes, des obligations lourdes à porter. J'ai lu des histoires que personne n'avait jamais osé raconter, des silences de plusieurs années, voire des décennies, qui trouvaient enfin un espace. J'ai lu chaque question, chaque message avec tant de gratitude. Merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance. Et ces questions qui revenaient encore et encore m'ont fait réfléchir. Jusqu'où partager ce que nous vivons? Parce que d'un côté, on aimerait en parler, être vu, compris, ventilé, expliquer nos absences, nos retards, nos silences, nos inconforts. De l'autre, on se dévoile par petites miettes, parce qu'on sait que c'est lourd à porter pour soi et pour l'autre. Aussi, à quel moment la vulnérabilité relie? Et quand devient-elle trop lourde à porter pour l'autre? Nous voilà donc dans cette tension entre le besoin de se déposer et la peur de trop en dire, entre l'intimité qui protège et l'exposition qui relie. Voilà le thème de cet épisode. Alors voilà où m'ont amené ces questions que vous m'avez offertes, ces réflexions. Et évidemment, ce ne sont que mes réflexions à moi, mais je serais curieuse de vous entendre sur vos propres expériences aussi, vos propres constats et réflexions. Donc, une porte sur notre monde intérieur. Imaginez une maison, votre maison intérieure. Elle contient votre histoire, vos doutes, vos peurs, vos joies secrètes, vos blessures anciennes. Et cette maison, elle a une porte. À côté de cette porte, il y a un parapluie. Entre laisser la porte complètement barricadée et grande ouverte en permanence, il existe mille nuances, parce que c'est votre espace sacré. Dans votre maison intérieure, il y a plusieurs pièces, différents niveaux d'intimité. Certains restent sur le seuil, d'autres entrent dans l'entrée, quelques-uns accèdent au salon, très peu voient les chambres. Et ce parapluie, c'est votre pouvoir personnel. C'est cette capacité de choisir comment vous vous montrez au monde, de décider ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous. C'est lui qui vous accompagne quand vous sortez de la maison, qui vous permet d'être authentique tout en restant protégé. La vulnérabilité consciente, c'est l'art de savoir jusqu'où entrouvrir la porte de sa maison intérieure et quand déployer son parapluie pour naviguer dans le monde. Et c'est ainsi que l'on peut incarner l'art du « et », intimité et exposition. Faisons la différence entre transparence et authenticité. Ceux qui me connaissent bien m'ont entendu souvent parler de ça. Je pense que j'en ai parlé aussi dans mes deux derniers livres, « Oser être vrai » et « Être un leader créateur ». Donc, en ce moment, la tendance actuelle sur les réseaux sociaux, comme dans nos organisations, elle nous pousse au storytelling émotif. On raconte nos histoires, on expose nos adversités, on déploie nos épreuves, comme autant de preuves d'authenticité. Mais la transparence, ce n'est pas l'authenticité. La transparence, c'est la quantité. C'est tout dire, tout montrer, avoir la porte de notre maison grande ouverte. L'authenticité, c'est la qualité. C'est le sens derrière ce qu'on choisit de révéler, l'intention qui guide le partage. Au nom de quoi je partage? Il y a le philosophe sud-coréen contemporain, là, j'espère que je vais bien prononcer son nom, Byung-Chul Han, observateur lucide de nos sociétés numériques. Il nous parle d'une tyrannie de la transparence. C'est une injonction moderne à tout montrer, comme si plus on s'exposait, plus on était vrai. Et pourtant, et ça c'est important, l'intimité véritable a besoin d'ombre. Elle demande des zones non dites, des silences choisis. Paradoxalement, c'est souvent dans ce que nous taisons que l'autre trouve l'espace pour se reconnaître. Se nommer plutôt que se raconter. Je voulais vous parler de ça parce que je vois régulièrement des témoignages très crus sur les réseaux sociaux. Instagram en est plein. Des témoignages livrés sans filtre, certains difficiles à recevoir. Les intentions sont sûrement sincères, alerter, témoigner, aider, mais je vois aussi des gens qui réagissent très durement. Pourquoi? C'est pas parce que ces histoires-là manquent de courage, mais c'est peut-être parce qu'elles sont livrées dans un niveau de détail ou un espace où le contexte ne permet pas nécessairement de le recevoir. Des histoires de rupture, de violence, ce qu'on appelle du trauma dumping. Et c'est là que la nuance devient éclairante. Se raconter, c'est dérouler tous les faits d'une histoire. Et ça touche davantage le cérébral, parce que c'est des faits. Et en même temps, ça peut créer un malaise si les détails sont trop chargés. Se nommer, c'est révéler l'essentiel, déposer l'impact sur soi qu'a eu une expérience. Par exemple, on pourrait dire « J'ai traversé une période où j'ai cru que ma performance valait plus que ma santé. Aujourd'hui, j'ai choisi autrement. » Alors, sans raconter nécessairement l'histoire, on partage l'impact que cette histoire a eu. En se nommant, on touche le cœur et on ouvre un espace de résonance. Je vous offre mes 7 repères pour discerner, pour naviguer cette tension délicate entre intimité et exposition. D'abord, l'intention. Est-ce que je partage pour me soulager ou pour nourrir un lien? La vulnérabilité consciente cherche la connexion, pas la décharge émotionnelle. Ensuite, le temps. Ai-je suffisamment digéré pour que mon récit serve? Est-ce que j'ai du recul? Les blessures fraîches saignent, les cicatrices racontent. Ensuite, le contexte. Est-ce l'espace approprié? Un cercle intime n'a pas les mêmes codes qu'un espace professionnel ou public. Quatrièmement, le consentement. Est-ce que les autres ont choisi, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans le fait de recevoir ce partage? Évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est plus difficile. Mais peut-être que la solution serait de commencer notre texte, notre publication, par une invitation à la résonance en disant quelque chose comme « je vais vous partager une réflexion née d'une épreuve personnelle, merci de la recevoir avec ouverture et de voir comment elle résonne pour vous. » Ensuite, la réciprocité. Est-ce que mon partage ouvre une conversation aussi à ferme? Est-ce que l'autre a de la place, a de l'espace pour dire « ben voici comment je reçois ça, moi, voici comment ça atterrit chez moi, ce que tu me dis, ce que tu me nommes. » Donc, est-ce que je termine par une question qui invite à cette résonance, au dialogue? Ensuite, je dirais la forme. Comment est-ce que je transforme la densité de l'expérience que j'ai vécue en quelque chose de respirable? Parfois, on peut utiliser une métaphore, et c'est plus léger à offrir qu'un récit brut. Et finalement, le service. Est-ce que mon partage sert un nous plus grand, ou il reste centré sur mon jeu?
Fragile petit matin sans pluie, que mon parapluie garde en respect. Mais le ciel est au chagrin, et s'il avait deux mains, il chagrinerait. Je marche inquiété de me noyer dans l'orage, et je compte au passage les chauffeurs.
Et c'est là que la poésie entre en scène. Elle nous prête ses métaphores, ses images douces pour dire les choses difficiles. Elle nous offre des parapluies pour nous aventurer sous la pluie, des abris portatifs qu'on peut ouvrir quand les mots deviennent trop crus, quand la vérité est trop nue. Vous avez sûrement reconnu Daniel Bélanger, le parapluie. C'est en l'écoutant que j'ai pensé à notre métaphore d'aujourd'hui. Alors, une belle façon de transformer le thème des protections en une image qui est plus tendre. La vulnérabilité consciente, c'est peut-être ça au fond, savoir danser entre la pluie et l'abri, entre le dire et le taire, entre se révéler et se préserver. Peut-être comprendrez-vous mieux maintenant mon attrait pour la poésie, parce qu'à travers l'art, il y a cette impression de pouvoir dire tout ce qui nous habite. La poésie permet de donner de la profondeur aux émotions, de dire sans dire, d'exprimer l'inexprimable, de se nommer sans raconter, de déposer la souffrance sans l'imposer, d'en faire émerger la beauté, la clarté, parfois même l'espérance. C'est peut-être ça le rôle des artistes, des poètes, des écrivains, transformer la densité d'une expérience en espace respirable. Les jardins secrets ont leur raison d'être. La vulnérabilité consciente, ce n'est pas une performance. Elle ne cherche pas qu'à être vue. Elle n'est pas un déversement émotionnel qui aspire toute l'énergie de l'autre. C'est un geste de confiance, un don mesuré qui crée du lien au lieu de déconnecter. Alors, il ne s'agit pas de se taire, il s'agit de partager avec discernement, avec une conscience de l'impact. Peut-être qu'au fond, nous sommes tous des maisons habitées, avec nos pièces secrètes, nos greniers poussiéreux et nos jardins intimes. Et peut-être que l'art de vivre ensemble, c'est d'apprendre à frapper doucement aux portes, à attendre qu'on nous invite, à savoir partir quand c'est l'heure, et surtout à honorer le mystère de ce qu'on ne nous montre pas. Ma question pour vous, dans la maison de votre vie, jusqu'où en trouvez-vous la porte? Et qui a le privilège de voir vos plus belles pièces? Alors peut-être qu'être humain, c'est partager juste assez pour relier et garder juste assez pour se préserver et être un peu plus poète. Peut-être qu'au fond, c'est aussi apprendre à marcher dans la maison des autres avec délicatesse. C'était Pascal Dufresne, avec tendresse, de ma maison intérieure à la vôtre, et je vous dis à la prochaine.
Une coche ou tu l'une poire, mais c'est bien suffisant pour aimer tendrement et avoir une idée de ce qu'est la liberté. Chaste baiser, parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer et ça sent la poussière. Le vent soulève la terre. Chaste baiser, parce que je suis libre comme l'air, libre de faire demi-tour. Je vais continuer.